Deuxième chapitre.
Introduction de l'uniforme dans les armées sous Louis XIV, 1643 à 1715. 1600. Les armées européennes favorables à l'uniforme.
Les progrès en matière d'armement avec l'apparition de l'arme à feu et plus particulièrement de l'artillerie eurent raison de l'armure. Du jour où les troupes cessèrent de la revêtir, elles présentèrent le spectacle ridicule d'une armée bigarrée de mille couleurs différentes selon le goût fastueux ou le caprice des princes. L'idée d'un habit uniforme se répandit dans toutes les armées à mesure que les différents États de l'Europe se décidèrent à faire eux-mêmes les levées et à entretenir des troupes permanentes. Les guerres, menées par des armées composées de milliers d'hommes, démontrèrent la nécessité de reconnaître sur le champ de bataille les différents corps engagés. Les temps de paix permirent aux uns et aux autres de s'inspirer des trouvailles développées dans les autres armées, de les améliorer ou de carrément les adopter. Le corps des grenadiers de Brandebourg présenta le premier uniforme complet sur lequel les autres nations prirent modèle. Il avait été réglé par Frédéric Ier, devenu roi de Prusse. C'était un costume constitué d'un justaucorps corps et d'une veste bleue assez ample avec les parements de même couleur, garni de boutons jaunes, d'une doublure rouge. Les grenadiers étaient coiffés d'un chapeau en drap ou courbonné à la catalane, portaient des bas et cravates rouges pour les soldats, et des bas noirs et cravates blanches pour les officiers. Ils étaient chaussés de souliers montants. Néanmoins, ces habits hauts en couleur et richement engalonnés furent ramenés à des proportions plus modestes par les autres États. La France devait opter pour un uniforme au caractère plus strict et dont la coupe devint invariable dans chaque corps. Les premiers effets d'habillement qui allaient être utilisés dans notre armée ne différaient guère quant à la coupe du costume civil. En France, la couronne confrontée au problème de l'entretien d'une armée de 200 000 hommes se préoccupa avant tout d'alléger ce fardeau et de diminuer cette énorme dépense. La tâche était délicate et il s'en rajouta une autre et non des moindres, celle de faire vivre en bon ordre ces régiments dans les garnisons qui leur avaient été assignées. La discipline et la police des ordonnances ne pouvaient avoir leur plein effet qu'à la condition de verser aux soldats une solde lui permettant de vivre sans avoir recours au vol et au pillage des populations. La paix était modique et comme l'indique l'ordonnance du 20 juillet 1660, elle était versée pour toute solde, le roi ne fournissant que le pain de munitions et le fourrage. Les soldats étaient donc tenus à cette date de se vêtir eux-mêmes.
1668. La France convient de la nécessité d'un uniforme.
C'est après la paix d'Aix-la-Chapelle, conclue en 1668 avec l'Espagne, que la France adopta graduellement l'uniforme. Avant cette date, les anciennes ordonnances se préoccupaient principalement de la solde, de la composition des compagnies, de l'ustensile, des fourrages, etc., mais n'avaient jamais abordé le sujet de l'habillement. Comme nous l'avons montré dans le dossier concernant le financement des uniformes, cette question ne se posait pas, car les enrôlements étant faits pour une courte durée, 3 ans, pour une ou deux campagnes, il n'y avait pas lieu dans ces conditions de se préoccuper de l'habillement proprement dit du soldat qui, une fois enrôlé, continuait à porter son habillement personnel. Cependant, les vêtements s'usaient et il fallait bien les remplacer. Cette opération était à la charge du soldat dont la solde devait lui permettre de se nourrir et se vêtir. La mauvaise gestion que faisaient les hommes de leur solde et son versement par fraction de 10 jours avait obligé la plupart d'entre eux à demander des avances à leur capitaine qui retenait sur les prêts suivant le montant avancé. Les abus réalisés par des officiers cupides à l'égard de ces retenues obligèrent la couronne à se saisir du problème. L'ordonnance du 21 avril 1666 leur interdit de pratiquer des retenues, sous prétexte de fourniture d'habillement, chaussures, ou pour quelques autres causes que ce soit. Cependant, ces avances étant devenues incontournables, Louvois n'eut d'autre choix que d'en accepter la pratique. 6 mois plus tard, dans une ordonnance du 5 décembre 1666, il faisait volte-face et réglementait le procédé pour contenir non seulement les abus de ses officiers, mais aussi par crainte que ce défaut d'entretien, réduirait insensiblement les troupes dans la dernière misère, les mettrait hors d'état de pouvoir rendre aucun service. Si le vêtement restait à la charge du soldat et du cavalier, son financement n'était plus soumis à la comptabilité plus ou moins douteuse des officiers qui faisaient les avances. Désormais, 30 sols étaient retenus légalement sur la solde des cavaliers et soldats pour être employés en habillement, chaussures et autres nécessités desdits cavaliers et soldats et à la remonte desdits cavaliers. C'était une sorte d'épargne obligatoire qui restait la propriété du soldat et lui permettait de disposer des fonds nécessaires pour l'achat d'effets vestimentaires sans avoir recours aux avances faites par les capitaines. Cette première mesure officielle sur l'habillement demeurait néanmoins dans la continuité de ce qui s'était toujours pratiqué. Certes, on assurait au soldat d'avoir la ressource financière pour lui permettre d'acheter ses vêtements, mais le choix de la forme et de la couleur lui appartenait toujours. Si l'idée d'un habit uniforme avait progressé au sein des armées, son adoption définitive devait encore se heurter à quelques obstacles, dont celui du libre choix de disposer de sa solde. En effet, la couronne s'était toujours déchargée sur le soldat de son entretien et de son alimentation en lui versant une solde. On exigeait simplement de l'homme enrôlé qu'il soit en état de servir sous les armes. Quelques colonels plus fortunés avaient cependant commencé à habiller tout leur régiment d'effets uniformes, mais cette initiative avait été menée dans le but de leur assurer un certain prestige. Louvois utilisa avec habileté la fatuité des chefs de corps pour les encourager à poursuivre dans cette voie. Il exacerba leur amour-propre, en exigeant notamment des régiments étrangers au service du royaume et dont les appointements étaient plus élevés qu'ils aient une tenue uniforme. En 1669, à Dunkerque, il passa en revue le régiment allemand de Fürstenberg dont les soldats étaient tout vêtus d'un habit bleu à doublure jaune. Humiliés par la comparaison de leurs troupes avec les troupes étrangères, les colonels et les capitaines français suivirent peu à peu leur exemple et, sans être prescrits, l'uniforme devint pour chacun une obligation volontaire. L'orgueil et la vanité réussirent mieux que n'auraient pu faire les ordonnances les plus sévères. Louvois, grand maître de la lutte contre la corruption, de la méthode et de l'obéissance, connaissait la puissance morale de l'uniforme. S'il devait permettre aux chefs de distinguer leurs hommes, il n'en était pas moins un moyen efficace pour lutter contre les désertions et assurer l'ordre et la discipline. L'uniformité des troupes mettra cependant du temps à s'imposer dans la pratique. Les colonels, propriétaires de leur compagnie, continuaient d'habiller leurs soldats comme ils l'entendaient. Ainsi, à l'image du maréchal d'Ancre et des cardinaux Mazarin et Richelieu, qui avaient donné leur livrée à leur garde, plusieurs colonels propriétaires avaient donné la leur au régiment qu'ils commandaient. Pour les autres, l'uniforme se résumait à habiller leurs soldats avec les mêmes types de vêtements utilisés à cette époque et qui consistaient en un habit à large basque, une veste ample et un feutre à bord rond. Le sol retenu sur la solde des cavaliers et soldats permettant désormais de remplacer l'habillement sans trop de difficultés, ont pu passer à l'étape suivante qui consista à ôter aux bénéficiaires le choix de leurs effets. Cette décision ne fut pas acceptée sans résistance, aussi pour éviter que, les cavaliers et dragons négligeant de s'habiller, le pouvoir être, de manière qu'ils ne se roient pas tout vêtus, de même sorte, ni de semblable couleur, Louis XIV, dans une ordonnance du 20 novembre 1671, décida qu'à l'avenir toutes ces compagnies soient toujours composées de cavaliers et de dragons vêtus de même façon. La qualité très médiocre des étoffes à cette époque obligeait au renouvellement complet des habits tous les 2 à 3 ans. Ainsi, avec un cycle de renouvellement court et un financement assuré, il fut facile aux colonels d'imposer à leurs soldats et cavaliers une coupe et une couleur. L'uniformité consistait alors à fixer le type et la couleur des effets que chaque soldat devait porter. L'uniforme proprement dit, c'est-à-dire respectant une coupe, des couleurs tranchantes et des attributs officiellement réglés, n'était pas encore défini. Bien vite, confrontés au coût de cette entreprise, les occasions d'achat d'étoffes présentes sur le marché en grande quantité et à très bas prix furent privilégiées. La draperie était une industrie répandue dans la plupart de nos provinces. Les types de draps étaient nombreux et chaque canton restait fidèle à celui qu'il avait coutume de fabriquer depuis de longues années. La fabrique de Sedan occupait le premier rang dans la draperie fine et jouissait depuis longtemps de la réputation qu'elle a toujours su conserver. Derrière elle, venaient Lorient, Elbeuf, Abbeville, Darnetal. Les draps de ces fabriques furent réservés aux officiers. La draperie commune était fabriquée surtout dans le centre de la France et dans le Languedoc où l'Odève eut le privilège d'habiller les troupes. Ces fabriques produisaient des étoffes grossières pour la plupart dont les meilleures présentaient un tissu épais et sans souplesse. Dans les années 1670, les fantassins reçurent le justaucorps blanc gris à large basque, le gilet long ou veste, la culotte, les bas, les souliers, le chapeau de feutre gris à bord rond et large. Les régiments se distinguaient entre eux par la couleur des parements, du gilet, de la culotte et des bas que les colonels avaient choisis. On privilégia cependant le bleu et le rouge qui étaient les couleurs du roi et de la reine et le blanc qui était celle du royaume. Certains régiments, qui avaient pour couleur celle de leurs origines géographiques, les conservèrent. Cette première étape, dont le but était de vêtir les soldats avec des effets de modèles identiques, devait subir les extravagances de son temps. Les maîtres de camp conservèrent la couleur du fond d'habit, mais firent varier à l'infini les couleurs tranchantes qui les distinguaient. Ainsi, suivant leurs caprices, ils adoptèrent des couleurs qui s'accordaient le mieux entre elles ou qui plaisaient à telle maîtresse adorant le bleu pâle ou à telle autre idolâtrant le cramoisi. Les gardes françaises reçurent l'habit gris-blanc galonné d'argent sur les coutures, sur les poches et les parements, la culotte écarlate et les bas de même couleur. Le chapeau noir à larges bords ornés de plumes, la cravate blanche à rabat et le ceinturon porte-épée en peau jaune, complétaient cette tenue. Les officiers, pour se distinguer de la troupe, portaient l'habit écarlate richement galonné d'argent et la cuirasse. En 1685, on commença à mettre de l'ordre dans le choix des couleurs destinées au fond de l'uniforme. Le bleu fut réservé pour les gardes françaises et une partie des régiments royaux, le rouge pour les Suisses et le blanc-gris pour les autres corps. Les habits et les vestes dans chaque corps furent ornés de boutons métalliques jaunes ou blancs sur les devants, la taille et les poches. Le soulier à boucle et le ceinturon qui devait soutenir l'épée et porter la giberne devinrent de rigueur. La giberne ou cartouchière s'était progressivement imposée dans les armées à la suite des progrès techniques réalisés sur les armes à feu. Les cartouches de papier contenant la poudre et la balle ayant fait leur apparition, on remplaça les petites boîtes à charge suspendues au baudrier ou à la bandoulière par une petite sacoche de cuir appelée giberne dans laquelle on logeait les cartouches de papier. La cavalerie ne prit l'uniforme à proprement parler qu'en 1690. Jusque-là, le vêtement avait été, d'une façon générale, bleu à revers rouge pour les régiments royaux et gris pour les régiments de gentilshommes. Les compagnies se distinguaient entre elles par la couleur du baudrier supportant l'épée. Les grenadiers à cheval portaient, probablement depuis leur création en 1676, l'habit bleu doublé de rouge avec les agréments blancs. Les mousquetaires, les gendarmes et chevaux légers avaient l'uniforme entièrement rouge. Sur 116 régiments de cavalerie légère alors sur pied, 87 avaient encore l'habit gris à revers rouge, 4 l'habit gris à revers bleu et 14, appartenant au roi ou au prince du sang, l'habit bleu à revers rouge. Sur les 31 régiments de dragons, 15 n'avaient pas d'uniforme arrêté, 2, dont celui du roi et du dauphin, avaient l'habit bleu, les 11 autres l'habit rouge. Les couleurs employées étaient les couleurs royales, le bleu, le rouge et le gris remplaçant le blanc trop difficile à entretenir. Le vert qui n'était pas une couleur française apparut un peu plus tard chez les dragons. Le marquis de Louvois mourut le 16 juillet 1691 à l'âge de 50 ans. Il fut remplacé par son fils, le marquis de Barbezieux, qui fut fait secrétaire d'État par provision du 5 décembre 1681, en survivance de son père. Il exerça conjointement avec son père cette fonction, puis seul après sa mort, jusqu'à la sienne le 5 janvier 1701. En 1697, l'infanterie reçut les boutons de métal or ou argent, les souliers à boucles, le ceinturon, la giberne et le chapeau en feutre noir ou lampion à bord retroussé, galonné de jaune ou de blanc et orné d'une cocarde noire en tissu. La couleur de la cocarde varia bientôt suivant les corps, en 1767, elle deviendra blanche.